Le dernier amour, 6. Des jours et des semaines passèrent sur ce déchirement intérieur et le dissipèrent. Je ne savais plus rien de Tonino, sinon qu'il n'espérait plus fléchir son père et qu'il obéissait à Félicie en restant près de lui. Il écrivait beaucoup. J'avais refusé de voir ses lettres. Je n'aimais pas à parler de lui. Je voulais laisser à Félicie tout le soin, toute la responsabilité. Je n'osais dire tout le mérite de cette exécution. Elle ne parut pas lui être pénible, tout au contraire. Si une lueur de gaieté lui revenait au milieu de la tristesse où la perte de son frère la tint longtemps plongée, c'était les jours où elle me disait « L'enfant commence à s'habituer là-bas. Il me dépense un peu d'argent et je crois bien qu'il ne s'occupe guère. Mais lorsque son parti sera pris, j'aviserai à lui procurer un état. Il était trop gâté ici par mon frère. Il faut qu'il apprenne à faire comme les autres. » Je ne répondais rien. Félicie souriait comme à la dérobée. Il y avait une joie craintive dans ce mystérieux sourire. Elle était heureuse de me sentir jaloux, mais mon front sévère l'empêchait de me le dire. Dans ce tête-à-tête plein d'attrait et de souffrance pour moi au commencement, Félicie apporta une vaillance extraordinaire. Elle prit possession de moi avec une confiance sans bornes, et, se regardant comme ma fiancée, elle me parla de son amour sans réserve et sans trouble. Elle se montra dès lors à moi vraiment grande, car elle fut chaste et hardie en même temps. Elle s'était fait une sorte de prescription religieuse de ne pas songer à elle-même tant qu'elle porterait le deuil de son frère. Et, tout en me parlant sans cesse de notre future union, il ne lui arriva pas une seule fois d'y chercher pour elle un rêve de bonheur. Elle n'était occupée que du mien, et elle me conjurait de la rendre capable de le réaliser. « Je suis trop inférieure à vous, » me disait-elle, « et je ne voudrais pour rien au monde vous appartenir avant que vous m'ayez élevée autant que possible à votre niveau. J'ai de l'intelligence et de la volonté. Apprenez-moi tout ce que j'ignore. » Redressez mon jugement, éclaircissez mes idées, faites-moi comprendre tout ce qui vous occupe. Mettez-moi à même de causer avec vous, de m'intéresser à ce qui vous intéresse, de voir clair en vous et en moi-même. Vous m'avez grondé autrefois, il ne faut plus me faire cette peine-là. Il ne faut pas vous étonner de mon ignorance et de mes travers, il faut me les ôter. Soyez sûr que c'est très facile. » En effet, c'était en apparence très facile. Elle ne résistait plus à aucun enseignement, elle ne discutait plus, elle m'écoutait avec avidité, elle buvait mes paroles, elle était douce et docile comme un enfant. Son naturel inquiet et nerveux reparaissait dans les soins qu'elle prenait de ses affaires et de son ménage, dans les ordres qu'elle donnait à son monde et dans les impatiences que lui causaient les tracas puérils. J'obtins d'elle la promesse que cette activité fébrile serait combattue, qu'elle apprendrait à commander avec calme et à supporter philosophiquement la négligence ou l'inintelligence inévitable de ses subordonnés. Ce fut d'abord au-dessus de ses forces. Mais, un jour que je lui expliquai les idées de Lavater sur la physionomie, je lui traçai son propre profil au bout de la plume, et je lui montrais les diverses expressions de son visage modifiées par la nature de ses émotions intérieures. Elle se vit jouant du violon et elle se trouva belle. Elle se vit grondant ses valets et elle se trouva laide. Consternée de ma clairvoyance, elle prit du chagrin et pleura. Mais, à partir de ce moment, elle redevint douce avec tout le monde, comme au moment où, pour la première fois, elle s'était observée pour me plaire. Comment n'aurais-je pas été touchée de sa soumission? Bientôt, je fus ravi de son intelligence. Elle avait une facilité de compréhension merveilleuse. 2 ou 3 semaines de leçons lui suffirent pour réformer ses mauvaises locutions allemandes et françaises. Elle m'en demanda une liste, elle l'étudia la nuit au lieu de dormir. Quand sa mémoire les eut bien classées, elle n'y retomba plus jamais. Elle eut plus de peine à corriger son accent, mais elle sut très vite en faire disparaître les intonations vulgaires. Ce fut pour elle comme une leçon de musique que je lui donnais, et son instinct musical la servit admirablement pour cette réforme. Elle apprit aussi à causer, et c'est ce qu'elle avait toujours ignoré le plus complètement. Elle était de ces esprits impétueux qui n'écoutent de ce qu'on leur dit que ce qui répond à leurs préoccupations. Ainsi, elle s'emparait d'un seul mot qui l'avait frappé, et, comme un critique de mauvaise foi qui s'attaque à une citation tronquée, elle dénaturait avec une habileté ingénue et tenace le sens de ce qu'on lui avait dit, pour répondre à ce que l'on n'avait pas songé à lui dire. Elle abjura formellement ce procédé intellectuel, non pas tout de suite après que je lui en eus démontré les inconvénients, mais aussitôt que je lui en eus fait sentir le côté puéril et ridicule. Elle avait un amour-propre immense avec moi, et pour la corriger, il me fallait faire la chose la plus contraire à mon naturel. Il fallait employer la raillerie. Moi qui suis tout bienveillance, je souffrais d'en venir là, car je la faisais beaucoup souffrir elle-même. Mais elle le voulait, en somme. « Ma volonté est souple, » disait-elle, « mais mon instinct est rétif. J'ai beau vouloir ce que vous voulez, quelque chose en moi résiste par habitude. » Il faut donc froisser ma vanité de vous plaire, amener une crise, me faire du mal en un mot, et me mettre au défi. Alors, la leçon se grave dans ma mémoire si vivement qu'elle ne s'efface plus. Je m'étonnais de cette résistance de l'être moral si différent en elle de l'être artiste. Celui-là ne se rendait qu'en se brisant. L'autre vibrait et se complétait au moindre souffle. Pourtant, il y avait, sous cette rudesse du caractère, des délicatesses exquises. C'était une situation difficile, dans les termes où nous étions, que de ne pas tomber dans l'égoïsme, car Félicie sentait bien que, sans le malheur qu'il avait si brutalement frappé, j'aurais triomphé de mon amour pour elle. Et certes, j'allais devenir dans sa vie un appui plus direct et plus précieux encore pour elle que son excellent frère. Elle le sentait si vivement que je craignis quelquefois l'explosion d'un sentiment de personnalité farouche. Cette crainte ne se réalisa point. La douleur eut chez cette femme généreuse une austérité réelle, et si elle fut tentée parfois d'oublier et de se réjouir, un énergique retour sur elle-même lui arracha les pleurs, dont je devinais, mais dont elle ne trahit pas la cause. Je compris quelle victoire elle remportait sur elle-même un jour qu'elle me dit « Vous voyez bien clairement mes défauts, et vous travaillez à me les ôter. C'est un grand service que vous me rendez. Je suis à la fois honteuse et fière de vous donner tant de peine, et je me dis que pour accepter ce travail-là, doux et indulgent comme vous êtes avec tous les autres, il faut que vous m'aimiez plus que tout au monde. » Et comme je lui affirmais que je l'aimais effectivement plus que moi-même, elle effaça un rayon de joie qui passait dans ses yeux. « Mon pauvre Jean m'aimait bien aussi, » dit-elle. « Il n'avait pas votre intelligence, et il souffrait de mes travers sans en connaître le remède. Mais il les acceptait, et il me prenait comme j'étais. Il me disait « Comment fais-tu, étant si bonne pour être si méchante ?» Et il riait, il jurait, il m'embrassait pour n'être pas tenté de me battre. C'était rude et touchant. Ah, il m'aimait bien. Vous m'aimerez autrement, avec plus de douceur et de patience, mais je n'aurai jamais le droit de vous demander autant de tendresse paternelle. L'hiver se fit tard et nous permit d'avancer les travaux de l'île au point d'y pouvoir semer des céréales et planter des arbres fruitiers. La région que nous habitions jouissait d'un climat délicieux, et si les glaciers qui nous dominaient n'eussent menacé de leur ravage partiel les terres basses, que ne protégeait pas partout le ressaut vigoureux des rochers, nous eussions joui d'un printemps de 10 mois sur 12. Mais ces envahissements subis et pour ainsi dire mécaniques de l'âpre hiver au milieu de notre station tempérée ajoutaient au pittoresque et à l'étrangeté du site. Il n'était pas rare de voir descendre une dentelure de glace tout auprès de nos figuiers chargés de fruits, ou de voir, au milieu de l'été, nos prairies altérées reverdir sous l'inondation passagère d'une fonte de neige. Je menais toujours la même vie, active et régulière. Tout le jour, je travaillais en faisant travailler. Tous les soirs, je trouvais mon repos et ma récompense dans le tête-à-tête avec mon intéressante et chère compagne. J'arrivais à me sentir plus heureux que je ne l'avais été de ma vie, et à croire à cette chimère qu'il y a quelque chose de durable en ce monde. Il était convenu que nous nous marierions au printemps, et tout effroi s'était évanoui chez moi. Un soir, je trouvai Félicie en larmes. « Mon pauvre oncle est mort, » me dit-elle. « Il n'était pas très âgé, mais son métier de tisserand dans un atelier humide l'avait tellement vieilli qu'il n'a pu supporter une courte maladie. C'était un homme excellent et qui m'avait accueilli comme sa fille au temps de mon malheur. Me voilà seule au monde, mon ami. Je n'ai plus que vous. » Je partageai sa douleur tout en lui promettant de remplacer de mon mieux la famille qu'elle voyait impitoyablement moissonner autour d'elle depuis un an. Je n'osais lui parler de Tonino. J'attendais qu'elle me fît part de quelques projets relatifs à ce jeune homme. Elle garda le silence le plus absolu sur son compte, et ce ne fut qu'au bout de quelques jours que je me décidai à le lui faire rompre. « J'ai des remords, » lui dis-je. « Je ne puis souffrir l'idée que vous êtes, pour me complaire, devenue indifférente à l'avenir de votre fils adoptif. Il devient le mien, d'ailleurs, du moment que vous m'acceptez comme chef de famille, et je sens que nous avons des devoirs envers lui. Dites-moi donc ce que vous comptez faire pour le soustraire au danger de l'inaction et de l'isolement. » « Je n'en sais rien, » répondit-elle. « Depuis 6 mois, je ne le connais plus. » Il ne me parle plus avec confiance. Nous sommes à peu près brouillés. Il dit qu'il saura se faire un état et se passer de ma protection. À vous dire vrai, je n'en crois rien. Et si nous l'abandonnons, je crains fort qu'il ne se perde. » Je fus surpris de la sécheresse d'accent de Félicie, et je la regardai fixement pour m'assurer qu'elle ne faisait pas un grand effort sur elle-même en se montrant prête à sacrifier cet enfant à mon égoïsme. Était-ce un muet reproche? Était-ce une insinuation habilement dissimulée? « Félicie, lui dis-je, il faut rappeler Tonino. Il faut l'interroger ou l'observer, voir s'il réclame sincèrement son indépendance et s'il est capable d'en faire un bon usage. » Après quoi nous prendrons un parti. Pourquoi, me dit-elle, essayez-vous de me cacher que son retour vous sera très désagréable? Je ne veux pas vous le cacher, mais je veux surmonter ma répugnance. Il y a là un devoir à remplir, je vous l'ai dit. Et pour vous, le devoir passe avant tout. Oui, mon ami, c'est ma religion, à moi. « Pourtant, rien ne devrait passer avant l'amour, ce me semble, » reprit-elle timidement. « L'amour profite des sacrifices faits au devoir. »« Comment cela ? » ?»« Il s'élève et s'ennoblit. » »« S'élever, s'ennoblir, oui, voilà mon rêve, mon ambition. »« Je crois vous comprendre. Vous voulez triompher de la jalousie, n'est-ce pas ? » ?»« Eh bien, essayez. » Mais prenez garde de ne plus m'aimer quand vous verrez avec indifférence un homme me regarder avec amour. » « Je ne verrai jamais cela avec indifférence, mon ami, à moins que vous n'encouragiez ce regard lascif qui vous souillerait à mes yeux et aux vôtres. » « Grand Dieu, s'écria-t-elle impétueusement. Que dites-vous là? Si je ne suis pas parfaite, vous cesserez de m'aimer. Je ne sais pas si vous êtes ou si vous serez parfaite sous tous les rapports. Telle que vous êtes ou telle que vous serez, je vous chéris et vous chérirai toujours. Mais en fait d'amour, je suis exclusif, et je ne comprends pas que la fidélité complète soit une vertu difficile à un cœur aimant. Vous savez bien, reprit-elle après un silence, que je n'ai jamais été coquette. Cela n'est pas dans ma nature. Pourtant, si je le devenais à présent que j'aime, si pour entretenir votre amour, je vous faisais quelquefois sentir que je peux en inspirer aux autres, seriez-vous si rigide que de regarder ce désir de vous plaire davantage comme un manque de fidélité? Oui, certes, je suis rigide à ce point-là, m'écriai-je, et je ne croirais pas être injuste. Toute coquetterie a besoin d'un complice, et la femme qui associe un autre homme à la tentative fort peu innocente dont vous parlez fait plus que de tromper son époux. Elle l'avilit. Qu'elle se fasse un jeu de sa souffrance, ce n'est qu'une méchanceté, et cela se pardonne. Mais qu'elle encourage un étranger à tourmenter avec elle l'homme qu'elle a juré de respecter, voilà ce que je n'admettrai jamais, et ce qui m'inspirerait un invincible mépris. « Je vous trouve cruelle, reprit Félicie, et vous avez aujourd'hui une façon de dire les choses qui m'épouvante et me blesse. Vous ne voulez pas supposer que l'étranger en question serait un ami qui se prêterait chastement à une épreuve dans l'intérêt du mari? Où avez-vous pris cette morale de vaudeville, Félicie? Êtes-vous assez enfant pour croire qu'en jouant la comédie de l'amour, le faux rival que vous choisiriez pour aviver l'imagination ou les sens de votre mari n'aurait pas lui-même les sens et l'imagination occupés de vous? Ah, si jamais vous aviez la fantaisie de faire servir le masque expressif de Tonino à cette prétendue épreuve, prenez garde, je... Vous nous tueriez tous les deux ? S'écria Félicie, revenue à la joie involontaire de son instinct sauvage. « Vous vous trompez, lui dis-je. Je ferai quelque chose de pis. Je vous dédaignerai profondément l'un et l'autre. » Cette réponse l'irrita, et pour la première fois, je la vis courroucée contre moi. « Vous ne m'aimez pas, dit-elle. Vous admettez l'idée que votre amour peut fondre comme une première neige. Qu'est-ce donc pour vous que d'aimer? Rien ou presque rien. Vous parlez de passer en un jour de l'adoration au mépris, comme de changer votre vêtement d'été pour un vêtement d'hiver. C'est donc comme cela qu'on entend l'affection quand on est philosophe? On se trace un plan, on établit une loi, et hors de là, il n'y a pas le moindre écart possible. Si l'on n'a pas pour compagne une femme sans défaut, un autre soi-même, on ne la tue pas dans un accès de colère. Oh non, on n'est pas assez ému pour cela. On la tue dans son estime et dès lors dans son cœur. Allons, une pelletée de terre sur ce cadavre, et tout est dit. Eh bien, je trouve cela horrible, et j'aime mieux l'éternelle brusquerie, l'éternel reproche et l'éternel pardon de mon pauvre Jean. Il n'avait pas d'orgueil, lui, et quand je le contrariais, il me contrariait aussi. Nous étions quittes. Elle sortit sans vouloir m'entendre, et s'en alla, en pleine nuit, pleurer sur la tombe de Jean. Ainsi, Tonino, absent, était encore l'obstacle à notre mutuelle confiance. Son nom ne pouvait revenir entre nous. L'idée même d'un rapprochement de quelques jours ne pouvait être évoquée sans donner lieu à une querelle sérieuse et sans ébranler de fond en comble l'édifice de notre bonheur. Après tant d'efforts, sincèrement tentés de part et d'autre, pour fonder et consolider ce grand ouvrage, le résultat était mortellement triste. Je réfléchis durant toute la nuit aux parties à prendre pour concilier nos mutuelles susceptibilités avec l'assistance et la sollicitude que nous devions à Tonino. Dès le matin, j'en parlais à Félicie. « Occupons-nous de l'enfant, lui dis-je. Querellons-nous encore, s'il le faut, à propos de lui, Mais ne l'oublions pas. Votre intention a toujours été d'en faire un cultivateur. Eh bien, à défaut d'un peu de science que j'eusse pu lui donner en le gardant près de nous, donnons-lui une véritable éducation spéciale. Envoyons-le dans une ferme-école. Il en existe à notre portée. J'irai le voir souvent, je le surveillerai comme mon fils. Et quand il en sortira...
Il n'en sortira pas, parce qu'il ne voudra pas y entrer,
répondit Félicie en m'interrompant avec vivacité.
Il est trop âgé, songez donc. Il a aujourd'hui 22 ans. Ce serait humiliant pour lui de faire son apprentissage avec des enfants. Il a de la vanité, vous le savez, et le voilà en âge de ne plus nous obéir comme un petit garçon. Il n'est point dit, d'ailleurs, qu'il acceptera votre autorité paternelle comme il acceptait celle de Jean. Le mieux, c'est de lui faire une pension convenable et de l'envoyer chercher de l'ouvrage selon son idée. J'ai assez souffert de vous à cause de lui. Je n'en pourrais supporter davantage. J'en deviendrai folle. Je ne veux plus de lui ici.
Félicie redevenait exagérée et presque tragique. Mon sourire l'irrita encore.
« N'est-ce donc rien ? » reprit-elle. « Que les menaces que vous m'avez faites hier ? J'avais d'abord cru que vous parliez en thèse générale. Mais quand le nom de Tonino est venu sur vos lèvres au milieu de tout cela, j'ai bien vu que je ne vous avais jamais compris. J'y ai songé cette nuit. Allez, si vous avez tant dédaigné mon amour au commencement, c'est parce que vous étiez jaloux de Tonino. Moi, je croyais que ce serait le contraire, et que vous n'étiez pas encore assez jaloux. Voilà pourquoi je vous ai révélé des misères que j'aurais mieux fait de garder pour moi. À présent, je vous connais. Quand vous soupçonnez, vous n'aimez plus, vous méprisez. Ah, j'ai été bien imprudente, et je me déteste pour cela.
Félicie, m'écriai-je, dites-moi que vous m'avez trompée pour éprouver mes sentiments. Dites-moi que Tonino n'a jamais été épris de vous. Je pardonnerai un mensonge dont vous n'avez pas compris la gravité. J'en rirai avec vous, je vous en remercierai même, et avec transport, si vous me délivrez de ce tourment que votre apparente sincérité a fait naître.
« Je n'ai pas menti, reprit-elle. Je ne mens jamais. Mais quelquefois l'imagination m'emporte, et sans bien m'en rendre compte, j'exagère. Cela a dû m'arriver quand je me suis plainte à vous des idées de Tonino. Et puis, je suis une nature inquiète, vous le savez bien. J'ai dû me tromper. Peut-être que l'enfant n'a jamais eu les sentiments que je supposais. Le fait est qu'il n'y paraît plus aujourd'hui, et qu'il est très froid pour moi. N'y songez donc plus. Moi, j'avais oublié tout cela. Ne pouvez-vous l'oublier aussi? Et faut-il, pour quelques paroles imprudentes, que vous soyez à chaque instant sur le point de me retirer votre confiance?
Non, certes, répondis-je, il n'en sera pas ainsi. Je veux oublier. Je veux accepter vos nouvelles explications, et je veux d'autant plus me préoccuper de l'éducation de votre enfant.
« Eh bien, parlez-lui, répondit Félicie tranquillisée. Le voilà pour vous écouter et vous répondre. Je vous laisse ensemble. »
Et elle sortit, comme Tonino entrait dans la salle, à ma grande surprise. Il vint à moi d'un air triste, mais sincère, et m'embrassa avec effusion.
« Vous paraissez étonné de me voir, » dit-il. « Ne saviez-vous pas que j'étais ici avant le jour ?»«
Votre cousine ne me l'avait pas dit. »
« Oh, ma cousine est bien singulière avec moi à présent. Elle ne m'aime plus du tout depuis qu'elle vous aime. Pourquoi cela, monsieur Sylvestre ? Que vous ai-je fait pour que vous me haïssiez, moi qui vous étais si attachée et si dévouée ? Voyons, voici le moment de s'expliquer. En arrivant ici à 5 heures du matin, je me suis arrêtée naturellement devant le cimetière pour regarder la tombe de mon pauvre cousin. J'y ai vu ma cousine agenouillée. Je l'ai appelée. Elle a fait un grand cri, et venant à moi, elle m'a dit que j'arrivais pour faire son malheur. Elle voulait me forcer de repartir tout de suite, et j'ai dû faire semblant de m'éloigner. Mais le chevreau connaît trop le bercail. Je suis venue ici par un détour, et j'ai encore vu Félicie en colère contre moi. Alors, je me suis fâchée aussi, et je lui ai dit que, puisque vous étiez à présent le seul maître, je ne me laisserai chasser que par vous. Parlez, monsieur Sylvestre. Je veux bien vous obéir, moi, si je vous suis importun ou odieux. Mais dites-moi pourquoi. N'ayant jamais rien eu à me reprocher envers vous, j'ai bien le droit de vous demander une franche explication. » Il parlait si ingénument que je lui répondis avec l'ancienne affection. Je le rassurai, et je lui demandai s'il m'avait cru hostile au point de ne plus compter sur moi. « Je l'ai cru, dit-il, bien que ma cousine ait toujours pris sur son propre compte la résolution de m'éloigner. Naturellement, je vous attribuais ce changement à mon égard. Voyons, que faut-il faire? Dois-je m'en aller tout à fait, ou rester ici un peu de temps, ou y rentrer pour toujours? Du moment que vous êtes bon pour moi, tout ce que vous me conseillerez, je me ferai un devoir de m'y conformer. » Eh bien, commencez par me dire bien sincèrement ce que vous souhaitez. » J'aurais souhaité reprendre ici mon ancienne vie, travailler sous vos ordres et avoir le bonheur de recevoir vos leçons comme au temps passé. Vous me paraissez toujours aussi doux et aussi paternel. Mais si ma cousine m'a pris en aversion, j'aime mieux partir et devenir ce que je pourrais. Que deviendrez-vous, mon cher enfant? Avez-vous quelque projet? Et quel projet voulez-vous que j'aie? Je suis dans une position qui n'a pas le sens commun. Me voilà comte del Monte, et je suis forcé de m'appeler Tonino Monti pour n'être pas ridicule. Je ne sais rien autre chose à fond que la gouverne des troupeaux. Je suis pasteur, comme disait mon pauvre cher cousin Jean. Un bel état lorsqu'on a à faire prospérer un troupeau à soi ou à sa famille. Et un état fort doux quand on vit dans sa famille, quand on y trouve de l'amitié et qu'on y reçoit un peu d'instruction. Mais l'instruction que j'ai acquise jusqu'ici ne me met pas à même de remplir une fonction dans l'administration, dans l'industrie ou dans les arts. Je suis un mauvais comptable. Je ne mordrai jamais aux chiffres écrits, bien que je sois fort à calculer de tête. Je ne suis pas assez musicien pour donner des leçons comme le grand-père Monti. Je ne sais même pas le dur et triste métier de mon père. Je ne suis bon qu'à entrer berger dans quelque ferme. Eh bien, est-ce là un sort pour moi? Et ma cousine souffrira-t-elle que je devienne valet au gage d'un paysan? Pourquoi m'a-t-elle pris chez elle? Pourquoi a-t-elle voulu m'élever à sa guise, m'inspirer de la fierté, me rendre intelligent et un peu artiste, si c'est pour m'abandonner à l'âge que j'ai? Elle a parlé de me faire une pension. Pourquoi? Je ne suis pas infirme, je veux travailler. Je rougirais de recevoir de l'argent pour me croiser les bras. Et je ne dirais pas que je ne deviendrais pas un bandit si je me laissais payer pour ne rien faire. Pourquoi ne pas me souffrir ici? Si ma présence vous gêne, qu'on me laisse construire un bon chalet dans les hauts, qu'on me confie une belle vacherie, et je ne descendrai ici que quand on voudra. Je prendrai un ou deux petits gardeurs pour m'aider dans mon exploitation. Je cultiverai même un peu si l'endroit n'est pas trop mauvais. J'emporterai mon violon, vous me donnerez quelques livres à lire, et je ne m'ennuierai pas. Je gagnerai ma vie honnêtement, sans faire honte à personne et sans me faire honte à moi-même. N'est-ce pas ce qu'il y a de plus raisonnable et de plus facile? » Tonino avait si parfaitement raison que je ne pouvais trouver aucune objection. Il connaissait très bien le commerce et l'élevage des bestiaux, et il aimait la vie champêtre. C'était bien vraiment le seul état qu'il pût exercer. Pour tout le reste, il avait une teinture insuffisante, et sa nature rêveuse et contemplative ne se prêtait nullement au prodige du travail intellectuel qu'il eût fallu faire pour réparer le temps perdu. Il fallait donc le réintégrer dans la famille, sauf à l'envoyer dans les hauts, comme il disait, s'il me donnait quelque véritable sujet de plainte. Au besoin, on pouvait l'occuper encore plus loin, du côté de Sion, où Félicie, par suite de l'héritage de son frère, avec quelques autres propriétés à faire valoir. J'accueillis donc le retour du jeune comte avec une cordialité sincère, résolu à être d'autant plus sévère envers lui
s'il me trompait, mais ne pouvant me décider à admettre que cela fût possible. L'amitié que je lui témoignais lui fit verser des larmes, et il me jura passionnément qu'il m'aimait de toute son âme. À ces effusions se mêlait l'expression de la douleur qu'il venait d'éprouver en perdant son père. Il en parlait en des termes si naïfs et si tendres qu'il m'émut, et que je me serais trouvé odieux de le bannir en pareille circonstance. Je rappelai Félicie. Je lui montrai autant de confiance qu'à lui. Elle garda une attitude assez froide avec nous deux, et parut gênée et comme impatientée qu'Antonino insista pour savoir la cause de sa dureté envers lui. « Ne me direz-vous pas, s'écriait-il avec animation, ce que j'ai fait pour vous déplaire depuis la mort de notre pauvre Jean? Jusque-là, vous aviez été ma mère, et puis tout à coup, je n'ai plus été qu'un ennui et un fardeau. J'accusais M. Sylvestre, et j'étais injuste. C'est un ange, c'est un dieu pour moi. Il est content de me voir, il veut que je reste ici. Donc c'est vous, vous seul qui me repoussez. Faut-il que je sois malheureux? Qu'est-ce que j'ai donc dit ou pensé de mal pour être malheureux comme cela? »
Rien, répondit Félicie en me regardant, comme si elle eût voulu me prendre à témoin de chaque parole qu'elle lui adressait.
Tu n'as rien fait de mal, mais tu étais contraire à mon mariage avec n'importe qui. Souviens-toi, tu es un enfant gâté, très jaloux de l'amitié qu'on t'accorde, et cela prouverait que tu n'es pas sûr de la mériter.
J'ai craint de te voir manquer de respect à M. Sylvestre, car une ou deux fois, sans dire rien de mal sur son compte, la chose ne serait pas possible. Tu m'as parlé de lui avec dépit. Or, je t'avertis, moi, que si tu n'es pas décidé à le chérir et à le servir comme ton maître et ton meilleur ami, je ne te souffrirai pas auprès de moi. Il veut que tu restes, tu resteras. Mais fais grande attention à ce que je te dis. Pas de jalousie, pas de dissimulation, pas d'humeur, pas de plainte. Car je jure qu'au premier mot, au premier regard qui témoignerait que tu lui en veux, tu ne resterais pas une heure dans la maison.
Tonino parut atterré un instant de cette dure mercuriale qui me blessait moi-même et tendait à me faire de nouveau suspecter la sincérité à laquelle je venais de me fier. Il marcha dans la chambre avec agitation, presque avec colère, puis venant à moi et se mettant à genoux malgré moi, « Puisque ma cousine me reproche devant vous mes fautes, il faut que vous m'en accordiez le pardon. Eh bien oui, j'ai été jaloux d'une grande amitié qui allait lui faire paraître la mienne bien petite. N'est-ce pas naturel? Où est le crime? Jamais un fils n'a vu sa mère se remarier sans avoir chagrin et peur. C'est de l'égoïsme, si vous voulez. Mais à mon âge, on n'a pas la raison et la vertu du vôtre. On est un enfant, et vous avez tant d'indulgence, vous. C'était à vous de me rassurer, de fermer ma blessure, de me dire que je serai encore quelque chose pour ma cousine et pour vous. Vous l'avez fait. Je vous remercie, je vous crois. Mais elle, pourquoi cette froideur et de si méchantes menaces? On ne m'avait pas habitué à ça, moi. Je devais être le soutien de sa vieillesse et le but de sa vie. Oui, voilà comment elle me parlait pour me rendre bon et sage quand j'étais petit. Voyez comme elle a changé. Et si j'en souffre, est-ce mal?
En voilà assez, dit Félicie. Sois bon et sage, sois ce que tu dois être, et mon amitié te reviendra comme autrefois. Mais ce n'est plus si facile, je t'en avertis. J'étais seule les deux tiers de l'année, je n'avais que toi à gâter, et je croyais bien ne me marier jamais. Mon sort a changé, j'ai eu le bonheur inespéré d'inspirer une grande amitié à un homme très au-dessus de moi et qui est devenu tout pour moi. Ne faut-il pas que, pour ne pas contrarier un bambin de ta sorte, je renonce au devoir de consacrer ma vie à celui qui daigne l'accepter? Nous sommes devant lui pour nous expliquer comme devant un juge, et pour dire la vérité comme à Dieu. Tu as eu la hardiesse de prétendre me détourner du mariage. Tu pouvais avoir quelque raison quand il s'agissait de Sixte Maure, et je te laissais dire, cela m'était bien égal. Mais quand tu as voulu me prouver que M. Sylvestre ne me considérerait jamais que comme une servante, je t'ai imposé silence. Tu as insisté, tu as été colère, presque insolent. Tu m'as offensé et tu m'as fait de la peine. Je n'ai pas voulu ennuyer M. Sylvestre de tout cela. Il ne l'a pas su. Il l'a peut-être deviné, et il a eu la délicatesse de ne pas vouloir connaître les détails, et je l'en remercie. Tu me forces à les lui dire. Eh bien, fais-toi pardonner, et ne recommence plus jamais si tu veux que j'oublie ta sottise. » Tonino pleura de nouveau, et il plaida sa cause avec une candeur qui me vainquit entièrement. Je l'observais pourtant avec toute la clairvoyance dont j'étais capable. Et rien dans son langage, dans son regard, dans son accent, ne sentait plus l'impertinence ou la ruse. Ce n'était plus le Tonino que j'avais redouté en croyant le pénétrer. C'était l'enfant naïf et tendre que j'avais aimé avant d'aimer Félicie. Et plus il montrait de repentir de sa jalousie, plus cette jalousie me paraissait innocente et naturelle. Je fus presque tentée de gronder Félicie quand nous fûmes seules ensemble. Elle avait été trop dure. Elle m'avait fait un rôle de maître et de juge qui n'allait pas à la douceur de mes instincts. Elle s'y était prise de façon à me rendre haïssable, ridicule peut-être, moi qui ne voulais régner sur elle et sur les siens que par la persuasion. À coup sûr, elle s'était trompée en attribuant à ce jeune homme une sorte d'amour offensant et déplacé. Ne s'était-elle pas confessée d'avoir exploité cette supposition pour me passionner davantage? « Voyons, cher fiancé, lui dis-je, il serait bien nécessaire de ne pas me bouder en ce moment décisif de notre vie. Vous voilà redevenue mystérieuse, comme au temps où j'avais peur de votre sourire triste et hautain. Je sais, je vois et je sens qu'hier, pour la première fois, je vous ai blessé. Est-ce une raison pour briser votre cœur en me faisant un sacrifice que je ne demande pas? Vous aimez Tonino. Vous avez le devoir autant que le besoin et l'habitude de l'aimer. Justifiez-le complètement s'il n'est pas coupable. Et s'il l'est, pardonnez-lui avec la tranquillité d'une âme pure que ne peuvent jamais troubler les pensées d'un esprit égaré. Parlez-moi de lui comme s'il était notre fils à tous deux. Empêchez-moi d'être trop confiant. Empêchez-moi aussi d'être injuste. Ne laissez pas sur tout cela je ne sais quel voile. Et si vous trouvez que je suis trop crédule après avoir été trop soupçonneux, avertissez-moi. » Je ne pus obtenir aucune réponse satisfaisante. Félicie était sous le coup d'une terreur inouïe de ce mépris dont je l'avais menacée. « Laissez-moi me remettre de cela, » dit-elle. « Aujourd'hui, je suis trop bouleversée. J'ai veillé et pleuré toute la nuit. L'arrivée de Tonino m'a saisie. Je me suis imaginée que vous me croiriez complice de son retour, qui est une désobéissance. J'ai été véritablement en colère. Je l'ai haï comme s'il venait m'ôter votre estime, me voler le seul bien que j'ai à présent en ce monde. » Vous me demandez s'il a eu réellement de mauvaises pensées. Je n'en sais plus rien. Je n'ose plus le croire. Ce serait donc ma faute. J'en aurais donc eu aussi. Vous avez dit qu'une femme était toujours complice d'un homme qui la désire. Peut-être que vous me méprisez déjà. Cette idée-là me rend folle. Et s'il faut que la présence de Tonino vous rende jaloux un jour ou l'autre, comment voulez-vous que je l'accepte avec plaisir? Que me parlez-vous du besoin que j'ai de le voir, du devoir que j'ai de l'aimer? Et il me semble que je le hais depuis que vous m'avez menacé de votre indifférence. Et vous voulez que je vous dise si vous faites bien ou mal de l'accueillir avec bonté? Est-ce que je sais, moi? Peut-être me croirez-vous un mauvais cœur si je vous dis que vous avez tort, et une mauvaise conscience si je vous dis que vous avez raison. » Il fallut me contenter de ces réponses évasives. Il est d'étrange nature que l'on ne confesse jamais parce qu'elles ne savent pas rendre compte d'elles-mêmes. Je sentis en frémissant qu'il y avait encore là un abîme entre nous.
Mais n'était-ce pas ma faute? N'était-il pas creusé par moi? N'était-ce pas mon pédantesque besoin de logique qui remplissait de glace et d'épines le chemin de soleil et de fleurs où s'épanouit l'amour? Pourquoi voulais-je absolument que Félicie n'eût jamais tort? Ne pouvais-je accepter les défaillances d'une âme souffrante qui, en somme, se donnait à moi sans regret et sans réserve? Étais-je un enfant pour croire que je n'aurais jamais rien à lui pardonner? Où étais-je si parfait moi-même que j'eusse le droit d'exiger la perfection chez elle? Je me raisonnais, je me réprimandais. Je soumis ma rigide conscience du vrai à toutes les transactions que la tolérance et la bonté peuvent accorder. Je résolus d'accepter la situation telle que je venais de la faire, de garder Tonino près de nous et de passer outre. Je sentis bien que je renfermais au fond de mon cœur une plaie vive et que je ne la refermais pas. Il s'agissait de vivre avec ce mal sans en faire souffrir injustement les autres. Je me flattais d'avoir cette force et je lus. La destinée, la fatalité peut-être, amena une diversion imprévue à mes secrètes agitations, et cela le jour même de l'arrivée de Tonino.